1917, elle a demandé la conversion, elle a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé de la part du pape, des évêques et de tous les chrétiens. La manière, et si on le faisait, la Russie se convertirait. Alors, le pape Pie XII l'a fait, etc., mais il l'a fait en tant que pape. Alors, on attend le moment, le pape Jean-Paul II a tenté de proposer à tous les évêques du monde de le faire en union avec lui en 1984, peut-être. Et le 13 mai 84, il y a eu, je pense, dans tous vos diocèses, etc., des gens qui ont dit qu'il faut inviter l'évêque à une réunion, et un peu dans tous les diocèses du monde, un peu dans tous les diocèses du monde, le 13 mai, il y a eu la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie. Ce qui est toujours très surprenant, c'est que depuis que le pape Pie XII a consacré le monde à la Russie, en tant que pape tout seul, on a une espèce de cascade d'événements qui montrent qu'à partir de ce moment-là, la Vierge Marie a protégé l'univers d'un certain nombre de catastrophes, et chaque 13 mai correspond à des dates. Alors, je ne connais pas tous les événements des 13 mai, peut-être que entre vous et entre chacun d'entre nous, on arrivera à cumuler. Voilà, je me semble que la plus ancienne que je connaisse, c'est celle du 13 mai 1958, où il y a eu la fameuse histoire d'Algérie. C'est un 13 mai qu'il y a eu le soulèvement ce fameux soulèvement qui, au moment de la guerre d'Algérie, le 13 mai 1958, a provoqué une levée quasi pacifique, mais qui s'est bien passée, relativement bien passée, vous savez, pour vous vous rappelez de la guerre d'Algérie, quoi. Bon. Eh bien, c'est le 13 mai que tout le monde s'est trouvé, absolument tout le monde s'est trouvé dans les rues d'Alger, d'Oran, etc. Absolument tout le monde. Non. Oui, mais enfin, il y avait une espèce de sursaut qui s'était produit. C'était un 13 mai.
J'aimerais vous dire ce qui s'est passé ici le 13 mars, cette année.
Ah oui, alors on va commencer par le bas, 58, donc la plus ancienne, que je connaisse personnellement. Mais si jusqu'en 1960, est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé un 13 mai 59 ou 60? En tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu également un phénomène tout à fait extraordinaire en 68. Rappelez-vous, mai 68. Et à l'époque de 68, le monde était gouverné par un type que vous connaissez bien, qui s'appelle Henry Kissinger, aux États-Unis, et en même temps en Égypte par le président Nasser. En même temps, en Égypte, par le président Nasser, qui avait littéralement phagocyté tout le Moyen-Orient et qui jouait le rôle de tyran sur tout le Moyen-Orient. Et il avait donc pris comme objectif d'islamiser. Et c'est ce qui s'est passé depuis, puisque la guerre du Liban, la guerre de Mauritanie, la révolution de Mauritanie, la guerre d'Éthiopie et tout ce qui s'est passé donc dans tous ces pays d'Afrique du Nord ont pour but essentiellement de supprimer toutes les poches de christianisme dans toute l'Afrique du Nord. Ça vient de Nasser. Et c'est pour ça que donc on a eu, par exemple, ces dernières années, en Éthiopie, 5 millions de Coptes qui ont été tués en quelques années, en 2 ou 3 ans. En Mauritanie, un génocide chrétien également. Et au Liban, c'est pas la peine d'en parler. Il s'agissait donc d'islamiser tout, de manière à ce que l'islam se réunisse et puisse être une force extraordinaire contre l'Occident. Tel était le point de vue, et contre Israël, bien sûr, puisque Israël... Alors, ce qui s'est passé en mai, justement, c'est que le président Nasser avait fait un décret de loi pour organiser, j'allais dire, une espèce de truc contre les chrétiens d'Égypte, enfin du Caire, où la poche chrétienne est quand même relativement importante. Alors la Vierge est apparue, pendant un an, toutes les nuits. Toutes les nuits, okay. Au-dessus de la base de Zeytoun, l'église de Zeytoun, l'église qui a été bâtie à l'endroit où la Vierge, avec Saint Joseph et Jésus, s'était arrêtée pendant la fuite en Égypte. La Vierge s'est apparue tous les jours, pendant 365 jours de suite. Ça, pardon ? Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le 13 mai suivant, on a trouvé une Bible ouverte au bord donc sur la fin, une Bible ouverte en 69, au bord de, comme Moïse, si vous voulez, qui a accosté, et c'était ouvert à un endroit où la Syrie et Israël se rejoindront dans l'amitié et la paix, enfin, à un moment où c'était la guerre la plus atroce. C'est un truc assez impressionnant. Je ne me rappelle plus tout. Vous pouvez lire le petit bouquin des apparitions de la Vierge de Zeytoun que vous trouverez aux éditions Teki pour voir ça. C'est très intéressant. C'est un événement capital au point de vue politique international. Si bien qu'il y a eu plus d'un million et demi de Kérois et de musulmans qui ont vu la Vierge, et notamment le futur président Sadat, qui à ce moment-là était secrétaire d'État, ce qui explique que c'est l'Égypte qui, au contraire, est devenue le ferment donc du rapprochement et de la pacification du Moyen-Orient, ce qui a fait exploser, je dirais, au moins pour un temps, le projet donc d'explosion de la terre et de l'incendie de la terre à partir du Moyen-Orient. Bon, alors, c'est des événements très importants qui viennent de la Vierge. Elle n'a pas dit un mot.
C'est pour ça que malheureusement il y a des évêques à qui j'ai parlé en Égypte qui ne croient pas à cette apparition. Parce qu'ils disent pourquoi est-ce que la Vierge apparaîtrait et ne dirait pas un mot. C'est étonnant, hein ? Elle a tout dit, voilà.
Alors, elle n'a pas dit un mot parce que, comme elle explique à Medjugorje, elle dit, regardez où est-ce que j'apparais, et vous comprendrez. Elle donne les messages seulement à ceux qui peuvent l'entendre, c'est tout. Et les musulmans ne peuvent pas l'entendre, seulement la voir, c'est tout, à la rigueur. Ce qu'il y a d'assez spectaculaire, c'est que les musulmans la voyaient très distinctement. Les orthodoxes voyaient une forme, des formes de lumière, et le prêtre catholique ne voyait rien du tout. Ce qui montre bien, vous voyez, que plus on a la foi, moins on a besoin de l'apparition. Donc vous avez 68 ans, il faudrait prendre des étapes comme ça, mais 13 mai... Est-ce que tu as...
Avril de cette
année. 13 mai.
Ah, 13 mai. C'est tous les 13 qui
mai.
Sont Fatima.
13 mai.
Alors, il y a un autre 13 mai absolument extraordinaire. C'était en 84 ou 5, où il y avait tout un projet donc, des Soviets d'invasion de l'Europe occidentale.
C'est 83, voilà.
83,
Mourmansk.
Voilà, Mourmansk. Tu peux en parler un peu.
Alors, 83, Mourmansk, extraordinaire. Vous aviez eu toutes les armées de tous les pays de l'Est qui avaient fait donc, des grands mouvements militaires, etc. Et ils avaient regroupé, ils avaient fait, dans les 6 mois précédents, quelques incursions par leur flotte militaire en essayant de voir ce que ça donnerait. Ils prenaient par la mer et qu'ils arrivaient. Et ils sont arrivés jusqu'aux portes. Ils n'ont commencé à être repérés que à une heure de l'Europe, quoi. Enfin, une heure de chez nous. Et alors, donc, ils avaient, fort de cette expérience, ils avaient donc pratiquement décidé. Alors, nous l'avons su par des gens qui travaillent à la CIA à Montmorin, parce que. Nous avons le père Emmanuel qui est à Montmorin avait protégé pendant la guerre des gens qui travaillaient à la CIA, leur avait sauvé la vie. Depuis, on est en rapport avec eux et on sait pas mal de trucs, pratiquement au jour le jour. Et là, c'est par eux qu'on a su presque aussitôt ce qui s'était passé. Parce que ça n'a jamais été dans les journaux, sauf 6 mois après, trois lignes dans le monde, et encore disant même pas ce qui s'était passé. Il y avait eu quelque chose, mais c'est tout. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'ils avaient décidé, d'après la CIA, d'après ces gens de la CIA, ils avaient réellement décidé d'attaquer. Ils allaient vraiment envahir. Et donc, la guerre était pratiquement décidée pour eux. Et donc, c'est le 13 mai que, au moment, j'allais dire, où ils allaient commencer à faire leur tentative, que la Vierge a fait sauter à Mourmansk le capital, absolument le chaînon principal de leur attaque. Les 5 arsenaux tactiques nucléaires ont sauté d'un seul coup, miraculeusement, sans fait, d'une manière totalement inexplicable, et en faisant un nombre de morts pratiquement ridicule.
Oui, mais par contre, les armes, si j'avais le chiffre, c'est extraordinaire, 1000...
Un nombre de mégatonnes. Elle a fait sauter miraculeusement, de sorte que ça a empêché.
Des sous-marins nucléaires qui ont sauté.
Mourmansk,
c'est dans le nord de la Sibérie,
sur la mer. Et de cette manière...
Les stratèges soviétiques n'ont jamais pu donner une explication de la chose.
Alors, les Spoutniks, etc., tous les zones vibratoires, tous les oscillographes du... Ce 13 mai-là, tous les oscillographes du monde ont tremblé. On tremblait. Et on ne savait pas ce qui s'est passé, en fait, c'était ça. Et à la CIA, ils le savaient. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas su? Parce que le président Reagan a absolument interdit qu'on en parle, même le sachant, parce qu'il disait qu'il considérait qu'un tigre blessé était beaucoup plus dangereux qu'un tigre qui n'était pas. Donc, vous voyez, chaque 13 mai, la Vierge fait quelque chose. Bon, le 13 mai 81... Il n'y a pas un 13 mai où la Sainte Vierge ne fasse pas quelque chose qui dénoyote quelque chose.
Du 80, alors, qui est-ce qui peut dire ce qui s'est passé? Voilà. Alors, qui est-ce qui peut rappeler certaines choses à ce propos?
Alors, les trois miracles de l'attentat contre le pape. Quels sont les trois miracles de l'attentat contre le pape? Est-ce que vous savez les trois miracles? Ah oui, mais ça, c'est pas un miracle. De lui avoir tiré dessus à Beauportant, c'est pas un miracle. Bah oui, mais ça, c'est pas un miracle non plus. La trajectoire de la balle, hein, explique.
Alors, écoutez, la trajectoire de la balle. Non, je connais moins la trajectoire. Je comprends. Vas-y,
trajectoire. Bon, la trajectoire de la balle, ils ont tiré à Beauportant, ils ont frappé ici le ventricule. Ça, c'est par un frère de Saint-Jean, lorsqu'on est allé l'année suivante, qui était médecin. Et qui était ami donc avec un des chirurgiens français qui avait été envoyé pour soigner le Saint-Père. Donc, évidemment, il trouvait absolument extraordinaire que le Saint-Père n'ait pas été atteint, étant donné la chose. Et en effet, sur les radios, la trajectoire de la balle, c'est un calibre énorme. C'est un énorme calibre. C'est, on pourrait difficilement faire un calibre plus gros avec un revolver. Et donc, au lieu, vous savez qu'une trajectoire, lorsqu'elle fonce à une telle vitesse, elle est forcément rectiligne. Et sur la radio, elle a frappé sur l'ventricule, elle est rentrée, elle a dit, tiens, oh, le pancréas, tiens ici, l'aorte, tiens ici, la moelle épinière, et puis, là, ici, et voilà. Et toutes les zones vitales ont été évitées par une trajectoire. Alors, ils ont... Il a ce chirurgien français dit au très Saint-Père quand même, une fois qu'il est en convalescence, est-ce que vous n'avez pas, je sais pas, éprouvé quelque chose au moment de l'attentat? Et Saint-Père lui a répondu la chose suivante, il dit, au moment où il tirait, je l'ai vu tirer, et au moment où il tirait, j'ai vu l'ange de Saint-Pierre qui a délivré Saint-Pierre de sa prison, et j'ai su que je n'en mourrai pas. Donc c'est l'ange qui a délivré Saint-Pierre de sa prison, rappelez-vous dans les actes des apôtres, qui a saisi la balle et qui... Et il a fait sortir. Ça c'est le premier miracle par lequel le Saint-Père était... Le second miracle, Daniel, je vais certainement vous en parler, qui est-ce qui sait le second miracle à propos de la balle, pour montrer... Le second miracle, c'était le poison. Je crois, hein. Bah c'était, vous savez que les balles ont ripé et ont frappé une Américaine. Et l'Américaine a été hospitalisée en même temps que Saint-Père. On s'est rendu compte que l'Américaine commençait à sortir complètement dans les vapes parce que les balles avaient été empoisonnées. Et c'est un poison mortel, bien entendu. Alors, sur le Saint-Père, le poison n'a fait aucun effet jusqu'à ce qu'on le découvre sur l'Américaine. Alors à ce moment-là, on s'est précipité sur le Saint-Père pour voir s'il n'y avait pas ça. Et on a vu qu'en effet, ça commençait à peine à faire son effet, mais seulement à partir du moment où on l'avait découvert sur l'Américaine. Oui. Alors, troisième truc, je crois. Alors là, je n'affirme pas parce que c'est plutôt un non-dit. C'est les balles étaient explosives. Elles n'ont pas explosé. Mais ça, je ne l'affirme pas. J'ai entendu de la même bouche du frère, mais voilà. Alors, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Surtout la parole du Saint-Père en disant, j'ai vu l'ange de Saint-Pierre qui a délivré Saint-Pierre donc de sa prison, qui frappait, qu'il avait ouvert les portes, et l'avait baladé jusqu'à l'amener à la communauté. Et puis là, il s'est rendu compte que c'était pas un rêve. C'est extraordinaire.
Ce qui n'est pas tout à fait dans d'un miracle, mais tout de même, il y a aussi une intervention, c'est qu'il y avait un problème aussi de coupe sanguin. Et vous savez qu'en Italie, on ne fait pas de réserve en banque de sang, on lance des appels à la radio sur le moment pour les gens, etc. Et là, on n'arrivait pas à trouver assez de son groupe sanguin pour compenser les 3 litres entiers qui venaient de perdre. Et puis la radio à Rome lançait les appels. Et il paraît que ça a été à quelque chose comme 30 secondes près qu'on ait assez de sang de son propre groupe sanguin pour le sauver. Et que jusqu'à la dernière 30 secondes, on n'était pas sûr de le sauver. Et ce qui est très beau, c'est que vraiment, il survit, il a survécu grâce au sang de son propre peuple. Je veux dire, c'est magnifique, le berger qui vit avec le sang de son troupeau, si on peut dire, son peuple l'a sauvé en lui donnant le sang. Et il faut savoir qu'il préparait à ce moment-là une Pentecôte, parce que c'était donc le 13 mai, donc c'était pendant le temps de Pâques, et il préparait activement depuis plusieurs mois une Pentecôte œcuménique très importante, où il avait notamment invité des patriarches et évêques d'Orient, orthodoxes, pas seulement catholiques orientaux, mais orthodoxes pour être au moins à titre de présent, invité, très très importante, qui devait avoir lieu à Saint-Pierre. Et pour lui, ça devait être une étape décisive, justement, dans le chemin de l'unité des chrétiens, avec l'orthodoxie, des catholiques et des orthodoxes. Et donc, il y a eu tout à coup cet attentat. Et quelques jours avant la Pentecôte, il s'est débattu avec ses médecins pour obtenir d'aller à la basilique Saint-Pierre ce jour-là. Et alors, il y avait les 14 médecins qui formaient le conseil médical, qui s'occupaient de lui, qui étaient réunis dans la pièce à côté. Et puis tout à coup, ils étaient en pleine discussion sur comment continuer le traitement et tout. Ils l'ont vu débarquant comme ça, en pyjama, comme ça, taper du poing sur la table, en disant « Je serai à Saint-Pierre de... » Rien à faire. Et ils ont été obligés de le laisser sortir comme ça. D'ailleurs, il est re-rentré après. Et c'est alors qu'il était trop faible pour marcher. Alors on l'a transporté dans la loggia intérieure de la basilique, d'où il a parlé à tous ses évêques rassemblés. Il y a une bouleversante homélie où il dit « Voilà, ce que nous vivons, c'est une petite Pentecôte cachée, comme la petite Pentecôte du soir de Pâques, quand Jésus a soufflé sur ses apôtres et puis leur a confié le de Jérusalem 50 jours après. Ainsi, ce que nous vivons est encore très très caché. Et de même que Jésus, avant de souffler sur les apôtres, a montré la source de l'Esprit-Saint qu'il leur donnait, en leur montrant les plaies de ses mains, de ses pieds, et surtout de son côté, c'est seulement après qu'il souffle sur eux, il leur montre ses mains et son côté, il leur montre ses blessures pour montrer par où l'Esprit-Saint se répand sur le monde, pour montrer que c'est à travers les blessures de son corps que l'Esprit-Saint peut se donner. Et c'est alors, il n'a pas dit explicitement, mais tout le monde y a pensé et il a fait allusion quelques semaines plus tard à des amis, il avait presque envie de dire, regardez mes blessures, n'est-ce pas, et recevez de nouveau l'Esprit-Saint. Parce que ça a été le refrain tout le temps, recevez de nouveau l'Esprit-Saint, recevez de nouveau l'Esprit-Saint qui nous vient par les blessures du Christ, qui nous vient par les blessures du Christ. Et vraiment, on sait que pendant toutes ces semaines où il était à l'hôpital, dans la clinique Gemelli à Rome, eh bien, il offrait toutes ses souffrances pour cette Pentecôte nouvelle sur l'Église et entre autres sur l'Orient. Voilà, pour cette unité de l'Église. Il souffrait tout le temps pour cela. Vous voyez, comme Jésus offrant ses blessures pour l'unité de l'Église. Et Père qu'il soit temps, Père qu'il soit temps. Et 6 jours avant l'attentat, il avait reçu dans les jardins du Vatican, ce qu'il fait très rarement, devant la grotte de Lourdes, justement, il y a une petite grotte de Lourdes dans les jardins, et c'est là qu'il avait entraîné les 500-600 délégués de tous les pays du monde du renouveau charismatique. Et parce qu'il voulait un temps de prière avec eux, voilà, dehors, dans les jardins, pour être bien tranquille. Et tous ceux qui ont participé ont dit combien ils avaient été bouleversés par cette espèce d'onction de paix, de douceur qui avait reposé sur eux tous.
Et après coup, moi j'ai pensé, c'était comme l'onction de Béthanie. 6 jours avant sa passion, Jésus qui est loin de l'onction très douce de la petite Marie de Béthanie qui brise son flacon d'albâtre. Et c'est un peu la même chose, comme si c'était un temps très fort de prière où l'Esprit voulait le fortifier pour vivre ce temps de passion qu'il allait vivre. Vous voyez, ça c'est très impressionnant. Très impressionnant. Et puis, bien, un autre tout petit miracle, c'est qu'au moment de l'attentat, il tenait, comme vous savez, juste quelques minutes avant, une petite fille dans ses bras qui aurait été... Non, tu l'appelais ?
Justement, je crois que... Qui s'appelait ?
Je ne sais pas.
Justement, c'est... Non, justement, je sais.
C'est important, le prénom, mais je me rappelle plus.
Bon, la petite fille aurait été tuée, vous voyez, tout de suite. Alors j'ai des amis polonais de Cracovie, qui sont des grands amis de Jean-Paul II, qui sont allés prendre le petit déjeuner avec lui quelques mois après, et qui ont demandé au Saint-Père, mais est-ce que vous avez réalisé le lien entre l'attentat et Fatima? Et il a dit, non seulement le même jour, mais la même heure. Et il avait repéré, donc, que c'était l'heure même de la première apparition du 13 mai. C'était à la même heure et ça l'a beaucoup, beaucoup frappé. Et c'est pour cela qu'un an après, dès son premier voyage, dès qu'il a été remis, ça a été pour venir ici à Fatima et où il a laissé ici, mais je ne sais pas où, il faut que tu essaies de nous trouver ça d'ici ce soir, il a laissé sa tunique maculée de sang qui est toujours ici. Voilà, en signe que vraiment c'est Marie qui l'a sauvé. Oui, alors ça c'est très impressionnant.
Alors, quelques dizaines d'années auparavant, il avait été à San Giovanni Rotondo, il avait été voir un certain capucin qui s'appelait Padre Pio. Et Padre Pio lui avait dit en le voyant, « Ah, voilà l'homme en blanc, je te vois en blanc et maculé de sang. » Et une autre fois, il avait été le voir.
Bien avant d'être pape. Hein.
Bien avant d'être pape. Elle avait dit, « C'est le pape martyr. » Elle a dit, « Tu es le pape martyr. » Elle a dit, « Je vois que tu es le futur pape. » Et alors le pape, du moins Karol Wojtyla, à l'époque, lui avait répondu, « Et moi, je vois que je te canonise. C'est moi qui te canoniserai. » Ce qui va se passer, il a... Bon, 1982, consécration du coup par le Saint-Père du monde et des peuples consacrés par Pie XII au cœur immaculé de Marie. Moi, c'est un événement évidemment capital. 83 Mourmans, il était temps d'avoir fait juste l'année d'avant. 84, justement, il a demandé ce que soit fait par l'ensemble des évêques du monde. Il me semble que c'est 84. 85, l'année de la rédemption, c'est ça. 85, 86, 87, je ne me rappelle plus. Il y a des trucs très importants, hein, 85, 86, qui se sont passés.
85, c'est le début de Gorbatchev.
85, début de Gorbatchev, mais ben, il semblerait que Tchernobyl, ça soit déclenché vers la mi-mai, et on ne connaît pas exactement la date. Et il y a aussi, donc c'est une espèce de révélation sur l'inconséquence totale de la Russie, au point de vue nucléaire, etc. Donc c'est très important par rapport au secret de Fatima, qui révèle que c'est de l'irresponsabilité des gouvernements de travailler dans le nucléaire. Donc pour les Russes, c'était une espèce de prise de conscience de ce que la Vierge avait dit, sans référence à la Vierge. Bon, 87, vous savez qu'en 80... Est-ce que c'est en 87 ou 86 ? Envers Pâques, il y a eu la toute première apparition de la Vierge en Ukraine. La fameuse apparition, alors ça a duré jusqu'à 88, sauf erreur, donc l'année dernière, et le 13 mai, alors du coup des pèlerins sont venus de toute l'Ukraine, c'est, attention, elle est apparue là, de manière vraiment extraordinaire, puisque c'est le seul pays de l'Union soviétique dont l'église orthodoxe soit unie à Rome, c'est les uniates, c'est l'église orthodoxe uniate, c'est-à-dire ceux qui dépendent du Saint-Père, ceux qui dépendent de Rome, uniates, ils sont unis à Pierre. Tandis que tous les autres sont unis au patriarche K de Moscou, lequel fait partie du parti communiste. Alors évidemment, c'est pas du tout pareil. Et la Vierge, bien sûr, apparue là. Alors, très embêtant pour le... pour le régime, pour les orthodoxes, etc. Et du coup, des pèlerins de toute la Russie, mais surtout d'Ukraine, sont venus par centaines de milliers, à pied, à genoux, etc. Avec des... Alors, ils ont essayé, de supprimer. La Vierge apparaissait toujours à une petite fenêtre de l'église. Alors, du coup, ils ont muré la fenêtre de l'église pour qu'elle puisse plus se mettre sur le marchepied de la fenêtre. Alors, du coup, elle apparaissait contre le... En disant, je m'en fiche pas mal que vous mettiez... Alors, du coup, ils ont fermé l'église. Alors, la Vierge, du coup, et les miliciens qui étaient censés garder, empêcher les gens d'arriver, voyaient une jeune fille arriver et leur dire, mais pourquoi vous fermez? C'est lamentable et tout, c'est triste et tout. Et qu'est-ce que tu viens nous raconter, toi? Elle me dit, mais c'est là où j'habite. Ça disparaissait. C'est bien qu'ils étaient obligés de changer sans arrêt, les miliciens qui se convertissaient. Avec des conversions sans arrêt, un roulement incroyable. Et alors, ils se sont aperçus que c'était impossible à freiner. Et alors, du coup, ils se sont dit, on va faire une espèce de bombe. Et ils ont organisé une émission de télévision. On salue Jésus, qui est quand même la source et l'origine de toutes ces grâces, au passage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 13 mai 1988, disons qu'ils ont... Ils sont pas très intelligents, ces Russes, parce que... Les Russes, la télévision russe a fait une émission de télévision extraordinaire, interrogeant donc tous ceux qui étaient témoins, qui avaient vu la Vierge, soi-disant, mais d'une manière telle qu'ils ont pris donc des centaines d'heures, ils ont fait une émission avec des découpages, mais de manière que ce soit évident que c'était une très grande farce. Et avec à l'appui les témoignages des voyants eux-mêmes. Et ils ont passé donc ça à la télévision. Évidemment, c'était une manière excellente de faire. Et du coup, c'est passé à la télévision. Et la Vierge a fait ceci, c'est qu'elle a arrêté tous les postes de télévision. Elle est apparue sur chacun des écrans. Elle a souri. Elle a souri.
J'ai demandé une crème, ça n'a pas été confirmé. Ils disent peut-être que c'est arrivé, mais ils ne peuvent pas confirmer.
Alors, si, c'est vrai. J'ai vu des photos et tout, il ne faut pas exagérer. C'est pareil sur tous les écrans. Sur tous les écrans, en souriant, comme ça, sans rien dire, quelques secondes, deux, trois secondes, l'air de dire, vous savez, je suis au-dessus de vos bêtises. Et hop, l'émission a continué. Donc c'était 13 mai. Donc vous voyez, tout ça, c'est des trucs où la Vierge, sans arrêt, grâce aux pénitences qu'on fait à genoux à Fatima, peut faire ces choses-là. Et ce phénomène de télévision, faites-y attention, parce que je suis content que vous le sachiez, que ça ait eu lieu, parce que faites-y attention, parce que, comme vous savez, nous sommes en train de rentrer dans une très grande offensive du christianisme, qu'on appelle le Nouvel Âge. Et Benjamin Constant, en 1972, a annoncé, a préparé les voies de celui qu'on appelle, dit-il, ce qu'il appelle, dit-il, l'Antéchrist. Et d'ailleurs, l'épiscopat français a fait l'année dernière, enfin oui, il y a 6 mois à peu près. On peut y aller? Ah, très bien, on va y aller. Et il a annoncé que justement, cet homme produirait exactement le même miracle pour convaincre le monde entier. Mais donc, c'est qu'il apparaîtrait à la télévision sur tous les écrans pour le fameux Maitreya, un certain Maitreya. Bon, très bien, qui ferait... Mais vous avez qu'à écouter. Il y a eu l'annonce. Vous savez, vous avez entendu parler du Nouvel Âge, qui est un mouvement que l'épiscopat français a dénoncé il y a 6 mois, et qui est un espèce de grand mouvement qui a pour but de remplacer le christianisme. Le christianisme est mort, et on doit le remplacer par le christisme. Et le christisme, c'est-à-dire le nouveau Bouddha, le nouveau Christ, c'est-à-dire ce que dans l'écriture nous appelons l'antéchrist, donc a été déjà annoncé par Benjamin Constant, son disciple, et notamment Benjamin Constant, dans son fameux livre, a annoncé le genre de miracle qu'il ferait, et notamment, il apparaîtrait comme ça, de cette manière-là, à la télévision, de manière à convaincre, et il y aurait donc des millions de miracles, de guérisons, etc., à l'occasion de cette apparition à la télévision. qui vont convaincre beaucoup de gens. Donc ce qui est très extraordinaire, c'est que la Vierge a fait ça avant lui. Pour bien montrer justement que c'est vraiment le dragon et la femme. Et le dragon, lui, ne peut faire qu'après la femme.
En
faisant la même chose. Donc voilà, tous les 13 mai, il y a quelque chose qui tac, dénoyote complètement. Ah, 13 mai 89, alors 13 mai 89, eh bien, devinez, cherchez bien. Qu'est-ce qui s'est passé 13 mai 89, c'était il y a... Pardon ?
C'est le 13 avril, c'était le Solidar Marche en Pologne, qu'ils ont signé l'accord pour la liberté.
Ben, c'était cette année. Non, moi je ne sais pas. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé le 13 mai 89, c'est samedi la veille de la Pentecôte. Je sais pas. Vraiment,
signe dans le ciel cette année. Le même genre de signe qui a été vu justement quand la Vierge l'a prédit, ça a été le père qui m'a dit, le supérieur de l'œuvre des saints anges, il était à la capelline en train de prier, il a vu, il a... Ah,
c'était où ici?
Oui,
Fatima.
À Fatima, il y a à nouveau comme le miracle du soleil, le 13 mars
89. Fatima était en feu. Le ciel était très rouge avec... une lueur très extraordinaire, des manifestations très extraordinaires dans le ciel. Alors, ils ont pensé que justement Moït a été en feu. Et puis, ils se sont rendus compte que ça ressemblait exactement au signe que la Vierge avait prédit en 17, avant l'éclatement de la guerre. Elle avait dit, quand vous verrez ce signe dans le ciel...
Ah, on l'a eu en France aussi, parfaitement exact, le 13. Moi, je l'ai vu, moi. Ah oui, cette année, je l'ai vu, ça a été surtout en Alsace, en Bretagne, et moi, de Sisteron, je l'ai vu. J'ai vu ce phénomène cette année, le 13 mars. C'est-à-dire, la Vierge à Fatima avait dit, la Seconde Guerre mondiale, il y aura une autre guerre plus terrible que celle-ci. Et pour vous prévenir, on mettra un grand signe dans le ciel, une espèce de lumière. Et il y a eu la fameuse aurore boréale du 13 mars 1938, ou 39, je ne sais plus, que, par exemple, ma maman a vu, tous les moines, à 3h du matin en France. Il a fait un nouveau jour sur toute la Terre, enfin, en Europe, et au lieu que le ciel soit bleu, le ciel était rose. Mais, par exemple, les moines d'Akalka, qui s'étaient levés pour Matine, à 3h du matin, ayant vu ça, sont sortis. Et ils ont dit Matine dehors, à la lumière de cette aurore boréale, inexpliquée scientifiquement, totalement inexpliquée scientifiquement. Et à l'anniversaire exact, donc, c'était donc le 50e anniversaire cette année. Et donc, le 13 mars, il y a eu cette aurore boréale qui s'est manifestée, non pas partout, mais en plusieurs endroits, comme donc en Alsace, en Bretagne. Bon, chez moi, c'était une zone de ciel qui était une espèce de... en pleine nuit, qui a duré de une heure ou deux.
J'ai lu dans la presse que ça avait à Paris, au Canada, aux États-Unis, à Paris, dans tout le nord de l'hémisphère nord.
À l'heure exacte et au jour exact de l'anniversaire du signe de Fatima.
Alors, ça a été interprété de deux manières ici.
Ça a été interprété scientifiquement, disant que c'est la couche d'ozone, de fait qui a provoqué ces choses-là enflammées. Mais je vous assure que quand on voyait ça, moi je l'ai vu, c'était très très beau.
Certaines personnes ont pensé... C'était très intéressant parce que ce jour-là, je dînais chez les petites sœurs de Jésus. Ah, ce soir-là, je dînais chez les petites sœurs de Jésus et en sortant avec la sœur Jacqueline, j'ai dit, mon Dieu, le ciel est très extraordinaire aujourd'hui, mais je n'ai rien vu de l'aurora borealis. Et ça semblait pour moi un ciel de paix. C'était comme une atmosphère de paix extraordinaire à Fatima. Mais ce même soir, je me suis sentie interpellée à passer la nuit à prier, en intercession plutôt, à la capelline, sentant qu'il y aurait aussi des choses dramatiques. Alors c'était très étonnant le lendemain, que des personnes m'ont dit qu'ils ont vu ce signe. Certains l'ont vu comme un signe de paix pour le monde, d'autres l'ont vu comme une chose, un avertissement, de que la Vierge redonnait un second avertissement pour des choses à venir. Donc, nous sommes peut-être. Elle avait dit à Fatima.
Que la première était pour une guerre mondiale, et ici, c'est pour des guerres civiles, c'est pour ça que c'est parcellisé comme ça.
Mais c'est intéressant que la Vierge avait dit que quand la Russie se convertirait, il y aurait un temps de paix accordé au monde. Elle n'a pas dit combien durerait ce temps de paix, elle a dit un temps de paix serait accordé au monde. Alors, ça ne durera pas.
Elle a dit à la Salette, le oui. Temps, combien de temps durerait le temps de paix
dit.
À la Salette, oui.
Elle a dit.
Elle a dit 25 ans.
De tout ça, pour conclure, avant qu'on aille à la chapelle, vraiment cette, ce que je dis ce matin, cette présence et cette puissance de la Reine du Ciel dans tous les événements politiques et cosmiques. Vraiment, c'est bouleversant quand on voit que comme si le Christ lui confiait un petit peu l'histoire du monde, tout cela, toute l'époque que nous vivons en ce moment. Et j'ai la conviction que tout ce qui se passe en Russie de manière absolument spectaculaire, en un sens, c'est le fruit de justement tout le prière, les jeunes de tant et tant de millions de chrétiens depuis les débuts de Medjugorje, entre autres, et depuis Fatima. Nous avons le bonheur de voir aussi les fruits de la prière du peuple chrétien. Je crois que c'est saisissant, il faut en être heureux et rendre grâce.
Le Eldenoyot in extremis. Le tac, 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 tac. L'amour mense, c'est vraiment spectaculairement mense. Hein.
C'est désarmé, n'est-ce pas?